Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Il faut lever les tabous autour de l'inceste et autour des histoires familiales.
Aujourd'hui, je discute avec Manon, une jeune femme de 32 ans, assistante sociale et micro-influenceuse. Par le biais de cette interview, Manon a souhaité témoigner de l'inceste dont elle a été victime étant enfant et de toutes les histoires familiales qui s'y sont mêlées. C'est un véritable secret de famille qu'elle a fini par découvrir des années plus tard. Celui-ci lui a permis d'enfin comprendre sa propre histoire. Je mets donc un trigger warning sur cet épisode. Si les sujets que l'on aborde sont des déclencheurs de souvenirs traumatiques pour toi, je te conseille de ne pas l'écouter. Ne t'en fais pas, il y a bien d'autres épisodes qui pourront satisfaire tes écoutilles. Si tu as envie de connaître l'histoire tout aussi rocambolesque que tragique de Manon, ouvre grand tes oreilles, c'est parti. Écoutez Bouteille à la mer. Écoutez, bouteille à la mer. Eh bien, bonjour Manon, bienvenue dans Bouteille à la mer. Je te remercie d'avoir souhaité témoigner aujourd'hui et partager ton histoire. Pour commencer, je vais te demander s'il te plaît de te présenter aux auditeurs et aux auditrices.
Alors, bonjour Mathilde, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast aujourd'hui. Donc, moi je m'appelle Manon, j'ai 32 ans. Je suis assistante sociale et aussi micro, voire nano-influenceuse food sur Instagram. En fait, je suis blogueuse food depuis plus de 15 ans. Mais comme c'est ringard, à ce qui paraît, les blogs, maintenant je suis sur Instagram. Et en gros, je fais de la food et de la photo.
Super. Ça fait combien de temps que tu fais ça ?
Alors, ça fait 15 ans que un peu plus de 15 ans que j'ai un blog. Mais du coup, je suis sur Insta là depuis... je me suis modernisée depuis 2 ans. Et en fait, tu te rends compte que Insta, c'est déjà un peu fini hein, maintenant, ouais. Il y a au profit de TikTok par exemple, donc je suis déjà un boomer sur Instagram.
T'en fais pas, je suis un peu pareil, j'ai un peu du mal aussi à suivre tout ça. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler de ta vie, pour parler de ton histoire et on va expliciter un petit peu tout ça au travers de mes petites questions et de ton parcours. On va commencer comme d'habitude par ton enfance. Quel genre d'enfant tu étais ?
Alors, moi, j'étais un enfant assez dynamique, avec une personnalité plutôt marquée. Hein. En fait, j'étais l'enfant qu'on entendait. Voilà. tu vois, moi, j'ai une grande sœur qui est beaucoup plus calme et sage. Et tu vois, comme la place de l'enfant sage était déjà prise, j'ai pris la place de la turbulente. Et ce qui est drôle, c'est que ma sœur, physiquement, elle était vraiment l'archétype de la petite fille sage, très menue, avec des grosses boucles blondes, des grands yeux bleus. Et moi, j'étais plutôt la petite brunette, avec la fameuse coupe carré frange qui a gardé son ventre de bébé, tu vois. J'étais la petite dodue rigolote, et puis il y avait la jolie blonde sage qui était ma sœur, quoi.
Vous avez vraiment les deux stéréotypes opposés, quoi.
Exactement.
Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une éducation genrée quand tu étais plus jeune et même par la suite?
Oui, alors clairement, hein, mais tu vois, je pense que tout ça, c'est très très inconscient. Finalement, mes parents, enfin surtout ma mère qui a été beaucoup plus impliquée dans notre éducation, elle faisait selon les normes de la société à l'époque, quoi. Je pense pas qu'elle élaborait beaucoup intellectuellement autour de cette question. C'était chambre rose et petite robe girly parce que c'était comme ça qu'on faisait à l'époque, quoi.
Ouais.
Maintenant, je pense qu'elle ne se serait pas opposée si j'avais voulu avoir des loisirs plutôt de garçon, entre guillemets, hein. D'ailleurs, quand j'avais 10 ans, elle m'avait fait couper les cheveux très très courts, et c'est encore très douloureux pour moi parce que je m'aimais pas du tout comme ça. Mais par contre, là où je trouve qu'on a une éducation particulièrement genrée, c'est que, et aujourd'hui encore, hein, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du rôle de la femme dans la société, c'est séduire l'homme. Du coup, ça m'évoque un peu ce qui avait été dit lors d'une précédente interview que tu as fait de Léa Chouk. Elle parlait de ça. Et
Oui,
tu sens
absolument.
que c'est vraiment ce qui domine chez elle, tu vois, et qui dicte son quotidien. Et tu vois, quand j'étais petite, elle me disait, tu sais, si t'es trop grosse, les garçons, ils voudront pas de toi. Parce que voilà,
D'accord.
parce que c'est notre rôle. Et aujourd'hui, tu vois, c'est encore le cas. La dernière fois, alors à Noël, on parlait à table d'agisme, et
Oui.
elle me disait, ah, mais les femmes de 60 ans, elles peuvent encore être sensuelles et désirables. Et tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle ramène beaucoup le rapport homme-femme à ça, hein, à la sensualité, au fait d'être désirable. Et comme elle vieillit aujourd'hui, bah, elle perd un peu son statut de femme séduisante parce que, bah, elle vieillit, même si on est d'accord qu'on peut être séduisante autrement
Bien
que
sûr.
par le biais de l'enveloppe physique, hein. Mais
Absolument.
tu sens que c'est terrible pour elle et qu'aujourd'hui, ouais, je peux clairement dire que j'ai une éducation genrée particulièrement sur cet aspect-là. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est très, très inconscient.
Oui, et puis comme tu dis, c'est très attaché aussi à notre société, hein. Aujourd'hui, quand on voit qu'on utilise des femmes nues pour vendre à peu près tout, c'est pas pour rien aussi. Il y a beaucoup de, comme tu dis, de rapports hétéronormés et de séduction reliés à l'image de la femme. Donc, comme tu dis, c'est très inconscient, mais c'est aussi sociétal.
Tout à fait.
Comment tu t'es construite en tant qu'adolescente, du coup, avec cette vision de la femme toujours reliée aussi à la séduction par rapport à l'homme? Quel type d'adolescente tu étais?
Alors moi j'étais une ado un peu compliquée. Dans mon adolescence et mon enfance, on y reviendra plus tard je pense, mais dans mon adolescence j'ai subi tout un tas de trucs pas cool parce que je pense que typiquement je choisissais mal mes relations amicales et amoureuses. Donc j'ai subi pas mal de conflits, de situations un peu de harcèlement et j'avais un style gothique.
Qui ne plaît pas à la majorité en général.
Oui, bah oui, bah c'est ça. On sort un peu de l'image de la jeune femme séduisante, du coup, typiquement. Tu vois, en te le disant, je me dis peut-être que c'était par opposition à ça.
Peut-être,
Et du coup,
peut-être.
je faisais pas mal de conneries, quoi. J'étais un peu rebelle. J'ai commencé à fumer vers l'âge de 11 ans, par exemple, ce qui me paraît aberrant aujourd'hui quand j'y pense. Mais voilà, c'était comme ça. Et comme tu vois, c'était à l'époque où mes parents y divorçaient. Bah, ils me laissaient un peu faire parce que je pense qu'ils culpabilisaient déjà de nous faire subir un divorce, que du coup ils nous laissaient un peu vivre notre adolescence avec son lot de bêtises en tout genre, quoi.
D'accord, je vois. Et c'était quoi ton rapport au corps à cette période-là?
Voilà, bah alors ça c'est compliqué, mais vraiment très très compliqué. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire autour de l'âge de 10 ans. C'est-à-dire qu'à cette période, je m'enfilais des tartines de mayonnaise pour le goûter.
D'accord.
Voilà. Je faisais des crises de boulimie, de l'hyperphagie. Et c'est d'ailleurs justement à ce moment-là que ça a commencé à être un peu compliqué avec ma mère. parce que ben on en revient toujours au même, quoi. Pour elle, ça ne correspondait pas à son image que je devais avoir en tant que jeune femme en devenir, hein. Donc voilà, je me prenais pas mal de réflexions. Elle voulait me faire faire des régimes, donc ben, pas louper. Quand je suis rentrée à fond dans l'adolescence, ben, là, j'ai fait de l'anorexie mentale.
Ouais.
Donc, je oscillais entre périodes où je m'arrêtais de manger, hyperphagie. Et là, j'ai commencé à me peser une quinzaine de fois par jour, mais littéralement, quoi.
T'étais suivie à ce moment-là?
Non, ni par un diététicien, ni par une nutritionniste, ni psychologiquement.
D'accord, ok.
Non, non. Et
donc
après,
t'étais vraiment seule face à ça, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, tu vois, c'est... Le fait que je m'arrête de manger le soir, par exemple, ma mère, elle ne voyait rien de mal parce qu'elle se disait, ben voilà, elle veut perdre du poids. Après tout, elle a raison, c'est bien parce qu'elle est... la pauvre, j'ai l'impression de la charger, mais elle est un peu grossophobe aussi. Voilà.
Non, mais c'est normal. C'est, tu vois aussi les défauts de tes parents. Et là, c'est ce dont on parle. Donc forcément, c'est ce dont tu parles. Mais
ouais.
On a bien conscience que ta mère n'est pas que ça non plus.
Et puis, je tiens à préciser que je parle beaucoup de ma mère parce que mon père a été assez absent de mon éducation. Donc bon, bah forcément,
d'accord,
c'est elle qui se confrontait à mon adolescence. Hein, voilà. Et elle ne le voyait pas. Enfin, je pense qu'elle ne voyait pas que je me pesais 15 fois par jour. Tout ça, enfin, ça lui échappait. Mais ouais, j'étais très mal dans ma peau, j'étais vraiment dans le surcontrôle, hein, de mon alimentation, de mon poids, et je me mesurais, enfin, c'était un truc de fou. Et je me dis, merde, quoi, parce que tu vois, quand je regarde des photos de moi à l'adolescence, mais j'étais super. J'étais super,
ouais,
bien.
C'est toujours avec le recul qu'on s'en rend compte.
Mais oui, et tu vois, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, j'ai, allez, 20 ou 30 kilos de plus qu'à cette époque, et même si je suis beaucoup plus grosse aujourd'hui, eh ben, je me sens carrément mieux dans ma peau qu'à l'époque.
Mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout se joue dans le mental et que ce n'est pas une question de physique, en fait. En fin de compte, ce n'est pas une question d'alimentation ou de poids ou quoi que ce soit. C'est vraiment bah, ton mental, comment tu te vois et comment tu acceptes aussi la manière dont tu te présentes devant ton miroir. Je pense que c'est au-delà de simplement le rapport à la nourriture en tant que tel. Il y a quelque chose de plus profond que ça.
Et aujourd'hui, même si la relation avec mon corps, elle reste très complexe, mais parce que voilà, enfin, pour le coup, compte tenu de mon passif, ça se comprend. Voilà, je reste mieux dans ma peau et j'avance en fait chaque jour, hein, qui passe est un petit pas où je me sens mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux et c'est chouette de se dire qu'on progresse, quoi.
Absolument, c'est positif. Ça veut dire que plus tu avances, plus ça va mieux. Et peut-être qu'un jour, tu pourras totalement te détacher de tout ça.
Ouais, j'espère.
Je te le souhaite. Quel a été ton parcours, du coup, après le lycée? Vers quoi tu t'es orientée? Là, tu nous disais que tu étais dans le social au début, quand tu t'es présentée. Quel a été ton parcours pour arriver jusque-là? Qu'est-ce que tu as fait après le bac?
Alors moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille du social. Ma maman, elle est assistante pour des assistantes sociales et ma sœur, elle est éducatrice spécialisée.
D'accord.
Donc c'est assez naturellement que je me suis orientée vers une carrière du social. Donc je voulais rentrer en école d'assistante sociale. Mais ça reste des études qui sont quand même très difficiles. Et comme j'étais pas prête à la sortie du lycée, j'ai voulu prendre une année de césure. Année durant laquelle j'ai fait quelques mois de fac art du spectacle, option théâtre, voilà, mais c'était vraiment pour ma culture ma culture perso, quoi. C'était vraiment voilà, pas rester à rien faire. Et puis l'année suivante, j'ai intégré une prépa qui m'a permis de réussir le concours d'entrée à l'école d'assistante sociale en 2009.
D'accord.
Et j'ai obtenu mon diplôme en 2012, donc j'en suis à ma 10e année d'exercice. Ça me paraît fou, les années sont passées, c'est 10 ans.
On
ne
se rend pas compte. Et du coup, tu fais ça, ça a été ton premier emploi et tu as continué dans ce secteur jusqu'à présent?
Ouais, tout à fait. J'ai fait des jobs étudiants, des choses comme ça. J'ai essayé plein de petites choses parce que moi, j'ai toujours travaillé pour payer mes études. Mais effectivement, mon métier, c'est assistante sociale et ça fait 10 ans que je l'exerce. Ouais.
Bah, écoute, c'est peut-être pas non plus un hasard. Comme tu dis, tu viens d'une famille qui est dans ce secteur, mais ça vient peut-être aussi de ton histoire. Et d'ailleurs, on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur le sujet, puisque tu m'as contactée parce que tu as souhaité témoigner de quelque chose qui t'est arrivé quand tu étais plus petite, donc de plusieurs abus sexuels que tu as subis quand tu étais enfant. Déjà, je te remercie pour ta confiance, je te remercie de nous accorder ce temps pour en parler, et je suis certaine que ça va aider beaucoup de monde. Si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu nous expliques comment ça a commencé, et il me semble que tu avais 5 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, alors effectivement, je ne pourrais pas trop te dire exactement comment ça a commencé parce que c'est assez flou. J'étais très jeune
Bien
et
sûr.
je n'ai pas de date précise en tête. Hein, je sais à peu près quand est-ce que ça a eu lieu. Ce que je peux te dire, c'est que du coup, ces actes ont eu lieu pendant que j'étais en vacances chez ma grand-mère maternelle. Donc ma grand-mère maternelle est remariée, mon grand-père paternel est décédé avant ma naissance. J'avais coutume d'appeler son mari papy, puisque
D'accord.
il était déjà là quand je suis née, donc voilà. Donc ma grand-mère, tous les après-midi, me disait, va faire la sieste avec papy. Et donc j'ai comme souvenir que ça se passait pendant ces fameuses périodes de sieste. Donc à l'âge que j'avais, tu te doutes bien que je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. Hein, je me
Bien
rendais pas
sûr.
compte que c'était pas normal.
Absolument.
J'étais plutôt dans un état de sidération, quoi. Et puis j'ai pas montré d'opposition. Mais en même temps, quand j'y réfléchis, le mari de ma grand-mère, c'était un homme très sévère, avec une haute figure d'autorité dans la famille, avec un physique très imposant. Et puis, je ne vois pas comment, du haut de mes 5 ans, j'aurais pu m'opposer à ça, quoi.
Évidemment, non, tu n'avais pas, ne serait-ce que par l'autorité de la famille, tu n'aurais pas pu t'opposer à ça. Enfin, ça, personne n'en doute, je pense.
C'est ça. Et donc du coup, je suis rentrée chez moi après cette fameuse semaine de vacances. Et là, si ma tête ne se rendait pas bien compte de ce qu'elle avait vécu, en tout cas, mon corps a parlé pour moi parce que je pouvais plus rien avaler. Je vomissais tout ce que j'ingurgitais, du coup pendant à peu près une dizaine de jours. Hein. Mes parents, ils ont essayé de creuser, ils me demandaient ce que j'avais, ils me disaient, mais tes vacances, elles se sont pas bien passées. Voilà, est-ce que papy, il a été méchant avec toi? Parce qu'il savait que papy, il était un peu dur, comme un peu sévère, quoi. Donc il me demandait, et moi je disais, non, non, tout va bien, tout va bien. Donc voilà, ils n'ont pas cherché plus loin, l'appétit est revenu peu à peu, et puis bon, c'est passé un peu à la trappe, hein, dans l'esprit de mes parents, et puis voilà, ça a suivi son cours, quoi.
Et est-ce que du coup, tu as eu une amnésie traumatique à la suite de ces agressions parce que tu nous dis que ton corps s'en est bien rendu compte et qu'il a eu une réaction, mais ta tête, comment ça s'est passé après ça?
Eh ben, ma tête, c'est quand même une super pote parce que du coup, elle m'a fait également, enfin, effectivement, profiter de ce fameux blackout hein, dont on souffre ou bénéficie, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais les personnes qui vivent des histoires trop douloureuses pour que le cerveau puisse les digérer. Donc, effectivement, ouais, j'ai eu ce qu'on appelle une amnésie traumatique jusqu'à mes 15-16 ans. Et comment je l'ai vécu? Écoute, j'imagine que les conséquences, elles ont été multiples et inconscientes à plusieurs niveaux, hein, tant au niveau comportemental. Il faut savoir que tout à l'heure, je te disais que j'étais l'enfant un peu turbulent, et j'étais l'enfant qui disait beaucoup non. Beaucoup dans l'opposition avec mes parents, paradoxalement au fait que j'ai pas pu dire non à mon agresseur, mais voilà,
C'est
peut-être
ce que
que
j'étais en train de penser, oui.
un psy pourrait bien l'analyser. Et puis les crises d'hyperphagie, je pense que on n'en vient pas à arriver sur des troubles du comportement alimentaire par hasard. Et puis tu vois, si je mets ça par rapport aux propos de ma mère, elle me disait, si t'es trop grosse, les garçons voudront pas de toi. Et moi, du coup, je mangeais. Donc voilà, c'était. Je sais pas ce que t'en penses, mais on peut se dire,
Bah, c'était
c'est
un peu
peut-être
une
que.
manière de te protéger, finalement. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Voilà.
Parce que si manger, ça me rendait indésirable aux yeux des garçons, bah, fallait y aller, quoi. Parce que.
Absolument.
Voilà.
Je pense que c'est certes. Après, je ne suis pas psy et ce n'est pas mon domaine de compétence, mais la manière dont tu en parles et comment ça arrivait à toi, etc., effectivement, oui, très certainement qu'il y a eu un lien qui s'est fait et que tu t'es dit, bon, bah, allons-y, mangeons et ne soyons pas désirables, puisque de toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est
ouais.
Fort possible. Une autre question que je voulais te poser, tu nous as dit que l'auteur des agressions était donc le mari de ta grand-mère maternelle. Quel était ton rapport du coup avec ta mère dans toute cette période amnésique, mais aussi par la suite, comment ça s'est passé ton rapport à tes parents vis-à-vis de ces agressions?
Ben, j'en ai pas parlé en fait, hein, puisque pendant toute la période de l'amnésie, enfin jusqu'au moment où j'ai les souvenirs qui sont venus, ben, du coup on n'en a pas fait état parce qu'on ne parlait pas de ça et parce que personne ne savait. Donc pour le coup, voilà, sur un aspect plus général, comme je t'ai dit, mon père, il était assez absent de notre éducation. Donc
oui.
Lui, à part être là pour faire la figure d'autorité, tout ce qui est tendresse, affection, il n'y en avait pas.
D'accord.
Et là encore, je suis en train de me dire, on est encore bien sur le cliché de l'éducation très genrée, où le père, c'est la sévérité et la mère, c'est plutôt les câlins et la tendresse.
Ah
quoi.
Oui, complètement, complètement. On est en plein dedans, oui, c'est clair.
Donc avec mon père, on était plus sur des rapports conflictuels parce que finalement on communiquait quand je faisais une bêtise et que fallait que je me fasse engueuler quoi. Avec ma mère, on était vachement fusionnel. Quand j'étais petite, ouais, j'étais très très proche de ma mère et on a toujours eu cette relation d'ailleurs un peu unique de un peu chien et chat parce que je me prends la tête tout le temps avec elle, mais à côté de ça on a une relation très 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 forte. Je pense qu'on est très forte, mais parce qu'on est lié par plus qu'une relation mère-fille quoi. Je pense qu'il y a, enfin, avec ce qui s'est passé, voilà, je pense qu'il y a des liens
bien sûr,
des liens
il y a
invisibles
des choses...
ouais, qui nous relient, ouais.
Ouais, complètement. De toute façon on aura l'occasion d'en reparler, je le garde en tête. Du coup, on était sur ton adolescence. J'imagine qu'il y a eu le premier rapport sexuel qui est arrivé, la première fois, le rapport aussi au garçon et toute cette séduction aussi dont on parlait tout à l'heure avec ton éducation. Comment tu as vécu ton premier rapport sexuel?
Alors, ma première fois, elle a été sous contrainte.
D'accord.
Encore une fois, avec mon petit ami de l'époque qui était majeur. Moi, j'avais 14 ans.
D'accord.
14 ans. Ouais. J'étais très très jeune. Et il était majeur et en même temps, j'ai envie de te dire, comment peut-il en être autrement, hein? Mon tout premier contact charnel avec un membre du sexe opposé était avec quelqu'un de beaucoup plus vieux et non consenti. Donc j'ai rejoué un peu. Hein, la même scène, inconsciemment évidemment, mais parce qu'à l'époque je me souvenais pas de tout ça. Et donc c'était un mec pas très bien dans ses baskets, très clairement, qui allait vraiment pas bien du tout, et qui me mettait la pression pour qu'on couche ensemble.
Très bien,
moi j'avais très très
à
peur.
À ne pas reproduire chez vous, bien sûr.
Exactement. Moi, j'avais très, très peur de cette première fois. Je m'étais dit, ça doit faire mal. Enfin, je m'en faisais quelque chose de terrible, vraiment. Et
ouais.
Du coup, lui, il me foutait la pression. Et il me disait, si dans une semaine, on ne l'a pas fait, je te quitte. Il reste 3 jours. Il reste 24 heures. Il reste 3
D'accord.
heures. Il reste 32 minutes. Non, non, mais c'était
ah oui, une vraie pression, quoi. Vraiment à te faire penser à ça tous les jours, en fait.
Exactement. Et du coup, moi, n'ayant pas. J'avais pas envie de me faire abandonner par ce premier garçon qui s'intéressait à moi. J'ai répondu à sa contrainte. Et puis, il s'est avéré que c'était un mec violent, voilà, qui m'insultait, qui m'a cassé le nez un soir sans raison particulière. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. C'était même pas pendant un conflit. Enfin, je comprends pas. C'est pour ça que je pense que c'était vraiment quelqu'un de très très mal dans sa peau. Et puis,
oui.
Ouais, malgré tout, il n'a pas réussi à me casser, hein, parce que j'ai trouvé la force de le quitter quelques mois plus tard.
Félicitations, c'est pas si facile. Bravo, bravo.
Ouais, mais surtout quand tu as 14 ans et que le
Ouais.
garçon en question en a 18, enfin voilà, on est à 14 ans, on est une enfant encore, enfin bon.
Complètement. Et puis t'es influençable. Et puis tu peux te dire aussi, waouh, j'ai de la chance. Je suis avec un mec de 18 ans. Enfin, c'est il y a toute une emprise aussi, ne serait-ce que par l'âge. Et bravo à toi d'avoir réussi à t'en défaire.
Bah exactement, puis merci pour tes félicitations,
Non, mais
mais
c'est vrai.
exactement, puis tu sais, enfin, c'était vraiment le truc con, quoi. Moi, mes parents, ils étaient en plein divorce, enfin, ils venaient de divorcer. Ma mère, elle était en train de retrouver un petit peu sa vie de femme de 40 ans. Elle sortait beaucoup, donc moi, j'étais avec un type qui avait une moto. Enfin, c'était, voilà, j'étais très, très impressionnée, comme on peut l'être quand on a 14 ans, quoi. Enfin,
Bien
voilà.
sûr, ouais.
Et puis
Et
suite à
tes
cette
relations par la
relation,
suite ont été plus... Ah pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
ouais, tout à fait, non, c'est ce que j'allais répondre à ta question. J'allais te dire, bah, en fait, suite à cette relation, ça a été un peu la descente aux enfers parce que j'ai enchaîné les petits copains et les aventures sexuelles. C'était une hyperphagie, mais
Ouais.
pas alimentaire pour le coup, quoi. Je
Ouais, je
consommais, c'était
vois.
vraiment ça. C'est-à-dire que je consommais les relations. Sans envie, sans appétit, mais voilà, je me remplissais de ces relations-là et voilà, ouais, j'ai eu une adolescence un peu, ouais.
Et puis finalement, tes souvenirs sont revenus. Est-ce que tu peux nous dire quand ils sont revenus et la cause de ce flashback? Comment ça s'est passé?
Ouais, alors, donc, comme j'étais une ado un peu rebelle, je me disputais beaucoup avec ma mère. Et elle faisait que me répéter, Manon, t'as quelque chose à extérioriser, Manon, t'as quelque chose à extérioriser, faut que tu ailles voir un psy, etc. Et à force de me répéter ça, là, il s'est passé un truc, j'ai eu un flashback. Et ce qui est assez dingue, quand t'as un flashback, dans le cadre, enfin, en tout cas dans mon cadre à moi, c'est que je me suis souvenue de tout. Et c'est comme si je me réveillais d'un coma et que c'était très clair. Enfin, je me
D'accord.
souvenais vraiment de tout, quoi.
OK.
Comme si j'avais jamais oublié, en fait. Le souvenir, il était là. Et
C'est fou.
donc, ouais, non, c'est assez dingue ce qui se passe. Je sais pas si les personnes, je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais je sais pas si les personnes qui se sont souvenues après une amnésie traumatique, enfin, je sais pas si c'est passé de la même manière, mais c'est comme si finalement, j'avais jamais oublié, en fait. Aujourd'hui, je sais que j'ai oublié, que je l'ai occulté, je le sais que je l'ai occulté. Mais à ce moment-là, c'était comme si je m'en souvenais parfaitement. Et donc, moi, un peu provoque, ma mère qui me pousse dans mes retranchements et qui me dit, voilà, t'as quelque chose à extérioriser. Et ben là, je lui crache au visage l'inavouable, c'est-à-dire que je lui balance la vérité. Je dis, oui, voilà, ben, tiens, je vais te le dire. Voilà, j'ai subi des abus sexuels de la part de papy. Voilà. Et là, ma
Pendant
mère,
la
wow.
dispute.
Voilà. Et
OK.
là, donc, elle, sous le choc, elle accuse
Ah
un peu le
oui.
coup et elle me dit bah, qu'elle aussi, elle a subi. En fait, elle me dit voilà, moi aussi, j'ai subi des choses de sa part. Mais elle me dira pas trop quoi, mais elle me dit voilà, moi aussi, j'ai subi des violences de sa part. Ma sœur, qui était pas loin, vient nous dire qu'elle aussi.
Ah ouais, là, c'est la révélation familiale, en fait.
Ouais, c'est ça. Le truc
Tout le
un
monde
peu.
ose dire.
C'est ça. On a ouvert la boîte de Pandore, quoi.
C'est ça, ouais.
Et donc, ma sœur, ce qu'elle exprime, c'est que ce qu'elle a subi, ça reste un peu moins grave. Dans les gestes que ce que j'ai subi, mais malgré tout, hein, ça reste quelque chose d'extrêmement grave. Donc
Bien sûr,
là-dessus,
ça
ma
reste une
mère
agression.
appelle sa mère, c'est ça. Là-dessus, donc ma mère appelle sa mère. Nouveau gros clash. Donc là, alors je dis nouveau parce que ma mère a une relation très conflictuelle avec sa propre mère.
D'accord.
Donc, nouveau gros clash. Ma grand-mère nous traite de menteuses. Elle nous dit que ça s'est
Et
jamais
oui, bien
passé.
sûr. C'est vous les menteuses.
Exactement.
Suite à ça, ma mère, elle coupe les ponts avec sa mère, parce que je pense que c'est trop dur, là, ce qui se passe. Et moi, bah, du coup, je tente de me reconstruire, parce que sur le moment, j'ai ces nouveaux souvenirs, mais bon, comme si j'avais jamais oublié. Mais finalement, c'est compliqué, parce que je vais être encore plus en colère et en conflit avec mes parents. Ouais. À partir de ça, ça va. Je pense que la crise d'ado, là, elle va prendre un petit coup d'accélérateur, et ça va être encore plus difficile.
C'est ce que j'allais te demander, quelles ont été les conséquences du coup de ce flashback, de cette réminiscence, on va dire, de tous ces souvenirs. Il y a eu du coup une vraie fracture au sein de ta famille avec ces révélations.
Ouais, mais tu sais, c'est encore une fois, c'était inconscient. C'est-à-dire que
Ouais.
ça n'a pas été, on arrête de parler. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme parfois tu vas pas être très bien et tu vas te sentir très à fleur de peau pendant une période de ta vie et tu vas te dire,
Oui.
je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sens que je suis pas bien et que là faut pas venir me chercher. Mais moi j'étais un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire que je sentais cette colère d'être toujours exaspérée, en fait, par mes parents, toujours très en colère, toujours dans le conflit, toujours dans l'opposition, et encore plus à partir de ce moment-là. J'étais encore plus en colère, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, quoi. C'est-à-dire que c'était là, ça bouillait en moi, quoi.
Et tu as pu cette fois-ci te faire suivre par quelqu'un pour avancer un petit peu plus sereinement, par un psy ou quelqu'un d'autre de compétent pour t'aider à traverser ça ou pas du tout?
Alors, pas du tout. Je sais que ma mère a laissé la porte ouverte, hein, comme je te dis, elle m'a invité à extérioriser, à aller voir un psy. Alors, j'ai fait une ou deux séances à l'époque, mais voilà, ça me tentait pas plus que ça. C'est pas simple quand on est ado, je trouve, d'accepter qu'on a besoin.
On le disait tout à l'heure, tu as choisi la voie du social, du coup, et tu me disais que tu avais écrit un mémoire sur les violences conjugales et le phénomène de l'emprise. Est-ce que tu penses, du coup, en plus du fait que ta famille était dans le social, que cette orientation professionnelle avait un lien avec ton histoire?
Bah, en fait, oui, mais sur le moment, j'ai pas fait le lien, quoi. J'ai pas fait le
Bien
lien,
sûr.
parce que, tu vois, donc quand j'ai écrit mon mémoire, j'étais très intéressée par tout l'aspect psychologique qu'il y avait autour des violences conjugales. Mais tu vois, oui, mon premier petit copain était violent. Mais il y a aussi quelque chose que je t'ai pas dit, c'est que je suis restée 3 ans avec un mec violent lorsque j'étais au lycée, donc à peu près 3 ans, 2 ans et demi,
D'accord.
3 ans. C'était quelqu'un avec lequel je me disputais beaucoup, qui m'insultait beaucoup quand on se disputait.
OK.
D'ailleurs, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il tenait pas mal du profil de pervers narcissique. Alors, je sais pas si on en parle, enfin, je sais pas si on en parle encore de ce profil-là. Je me suis pas trop renseignée,
Oui, moi j'en ai entendu parler souvent. Après, j'ai pas abordé le sujet parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'un petit peu controversé, mais je pense que tout le monde voit à peu près de quoi ça s'agit.
voilà, en fait, typiquement, si on tape pervers narcissique sur Google et qu'on trouve la définition, bah lui, il collait plutôt à ça, quoi. C'est-à-dire que
Ouais, d'accord.
C'est le mec hyper beau, très entouré socialement, très apprécié, qui fait de la guitare, qui a
Très
plein
propre sur lui.
d'amis, voilà. Et puis dans la vie privée, il passait son temps à me rabaisser, à m'insulter. Et un jour, il m'a, enfin, on était en train de se disputer, et puis il a mis ses mains autour de mon cou. Et puis moi, je suis tombée dans les pommes, voilà, je suis tombée dans les vapes, plus de sang, plus d'image.
D'accord.
Donc voilà, c'était encore un événement pas facile. Et finalement, il a fini par me quitter.
Ah d'accord, c'est lui qui est parti.
Ouais, j'avais essayé moi de le quitter un été. Je me souviens, j'étais partie au Francofolies avec ma meilleure amie.
Et j'avais trouvé la force, en fait, j'avais trouvé dans ce départ en vacances une force pour partir et lui dire tu m'appelles pas, c'est fini, enfin, je pars, moi je vais me changer les idées parce que j'étais très amoureuse de cette personne. Et du coup, je me souviens très bien, c'était pendant les Franco. En fait, il me harcelait au téléphone. Il m'appelait mais pff,
Il
50
acceptait pas que tu aies fait ce
fois.
choix toute seule, en fait.
Non, non, non. Il m'appelait en pleurs, il me harcelait. Mais t'es où? Tu fais
Ah
quoi?
ouais. Oh.
Ouais. Et finalement, bah, j'ai accepté de le
Vraiment.
reprendre.
D'accord. Ouais. Bah en même temps, qu'est-ce que tu pouvais
Ben,
faire d'autre?
phénomène d'emprise, tu vois.
Exactement.
Puis c'était vraiment le cycle de la violence conjugale, quoi. C'est-à-dire que le clash ultime qui fait que moi je le quitte, finalement il me promet monts et merveilles, mais je vais changer, mais tu vas voir et tout. Donc ben, finalement toi t'acceptes. Et puis en fait il change pas du tout, et puis ça recommence, et voilà. Et finalement, bon, alors il m'a quitté parce qu'il m'a trompé avec une fille.
D'accord.
Qui a fini quand même en hôpital psychiatrique. C'est d'une tristesse cette histoire, mais enfin bon.
C'est lui qui
Voilà,
a
mais
fini en
finalement,
hôpital psychiatrique?
elle, la fille avec qui il est
Ah
resté
mince.
3 ans après moi, ouais, non, mais enfin voilà, c'est que c'était
C'est terrible.
un type qui va pas bien lui non plus, hein. C'est pas quelqu'un de bien, quoi. Mais du coup, tu vois, le fait qu'il m'ait quitté, il m'a rendu le plus grand des services, hein, finalement.
Oui, totalement.
Et suite à ça, ça a permis d'ouvrir la porte à quelque chose de mieux, parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 10 ans, quelqu'un de très respectueux, que je remercie d'ailleurs, parce que il m'a appris qu'on pouvait être respecté dans le cadre d'une relation homme-femme, ce que je ne savais pas, a priori.
Bien
Et
sûr.
puis ben, notre relation s'est terminée de manière très respectueuse. Et puis aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'autre, et depuis 3 ans, avec qui ça se passe très bien. Je suis très heureuse en amour. Donc voilà, toutes ces choses m'ont amenée à aujourd'hui être bien en couple, et de savoir ce que je veux et surtout ce que je veux pas, quoi.
Bien sûr. Et ça t'a permis aussi peut-être d'apaiser ta relation aux hommes et de voir les choses d'une manière plus saine, j'imagine.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Puis aujourd'hui, je suis quelqu'un, je me considère comme quelqu'un de féministe. Et voilà, et pour moi, enfin, le respect homme-femme, c'est quelque chose de primordial, et c'est une bataille. Enfin, vraiment, c'est quelque chose sur lequel tous les jours, voilà, je me bats pour que les choses avancent, quoi. Je suis un peu militante, donc voilà, enfin,
T'as
mon
raison, il
parcours
faut.
m'aura amené à ça, quoi.
Donc finalement, comment t'as réussi à te reconnaître toi en tant que victime et à avancer au-delà de cette histoire qui est très lourde à porter? Comment t'as réussi à aujourd'hui, voilà, à pouvoir en parler, à avoir envie d'aider les autres et à ne plus te définir comme victime? Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. À ne plus te définir par ce traumatisme, en tout cas.
La reconstruction, pour les personnes qui ont été victimes, c'est déjà d'être connue comme telle. Donc, en fait, vers l'âge de 25 ans, je suis partie en formation une semaine avec des psychologues et des éducatrices spécialisées. C'était une formation sur le génogramme. Le génogramme, je ne sais pas si ça te parle,
Pas trop, non.
En gros, dans l'analyse systémique, qui est un courant de l'accompagnement et de la psychologie. Donc, dans l'analyse systémique, en fait, c'est considérer une personne non pas comme une personne à part entière, mais comme quelqu'un faisant partie d'un système. Donc, un système
D'accord.
familial, un système social, etc. Et donc, un des outils de l'analyse systémique, c'est le génogramme. Alors, en fait, le génogramme, c'est tout simplement un genre d'arbre généalogique qui retrace les relations familiales sur 3 générations et l'histoire familiale. Donc c'est quelque chose
D'accord.
de très normé, de très très normé, avec C'est quelque chose vraiment, voilà, où tu fais les traits de telle sorte si les relations elles sont conflictuelles, de telle sorte si les relations sont bonnes. Tu vois, enfin, c'est quelque chose, c'est très schématique et c'est utilisé dans le cadre de l'analyse systémique. Donc, moi, je suis formée
D'accord.
à cet outil-là. Et pendant la formation, en fait, à chaque fois que tu te formes au génogramme, il faut que tu fasses ton propre génogramme et que tu le présentes aux personnes avec qui tu fais la formation. Donc, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes et on a, pendant 4 jours, chacune, tour à tour, on présentait notre génogramme. C'était supervisé par une psychologue, etc. Donc, je présente mon génogramme, qui n'est pas rien, hein, puisque,
Oui,
voilà,
bah oui.
on parle d'abus sexuels. Et là, donc, je présente, voilà, ma maman, elle est secrétaire d'assistante sociale, mon papa est gendarme, voilà. Ma mère aurait a priori eu aurait a priori été victime de la part de cet homme-là. Moi, je l'ai été, ma soeur l'a été et tout. Et là, mes collègues, elles m'arrêtent tout de suite, quoi, et elles me disent, mais attends, pourquoi tes parents ne t'ont pas protégée, quoi? Elles me disent, mais ta mère, elle t'a envoyée dans la gueule du loup, ton père, gendarme de métier. Où son métier, c'est de protéger les autres contre ce type de choses, qui te laissent passer tes vacances là-bas. Ils n'ont pas porté plainte quand ils ont su. Enfin, là, elle me balance des choses où je me dis, mais ouais, mais c'est vrai,
C'est des choses
ça, ils ont
auxquelles tu
raison.
n'avais jamais pensé?
Jamais, en tout cas
Ouais.
pas consciemment. Et là, elle met le doigt sur des années de colère que j'avais enfouies en moi. Et tu
Eh
vois,
oui.
la colère dont je te parlais, je me dis, mais elle est là. Elle est là. Mes parents m'ont pas protégée. Ils m'ont mis en danger. Ma mère, elle a vécu des. Enfin, là, je me dis, ma mère a vécu des abus sexuels avec cet homme et elle me laisse, du haut de mes 5 ans, partir toute seule en vacances chez eux.
Bien sûr, bien sûr.
Tu vois? Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis là, en plus, tu vois, j'étais déjà assistante sociale. Et enfin, quand t'es assistante sociale, t'as un rôle de protection de l'enfance. Puis là, je pense tout de suite à ça. Je me dis, mais attends, je me bats pour quoi aujourd'hui, quoi? Je me bats pour que les enfants soient protégés de ce type de choses. Et moi, mes parents ont pas su me protéger, quoi. Et ma colère, tout de suite, ça se dessine sous mes yeux. Je me dis, mais elle est de là, ma colère, quoi, contre mes
Oui, là,
parents.
tu comprends vraiment l'origine de ton mal-être. Et d'une part, il y a eu l'amnésie traumatique qui t'a mis dans un état, au moment du flashback, que j'imagine est bouleversant. Et là, quelques années plus tard, tu te rends compte qu'en plus de ça, comment dire, tu analyses la situation d'une autre manière et tu te dis, bah, en fait, mes parents n'ont pas eu le rôle qu'ils auraient dû avoir dans cette histoire. Donc ça doit être bouleversant. Je n'imagine même pas.
Ben ouais, c'est-à-dire que là, tu prends conscience de la défaillance de tes propres parents.
Ouais, c'est ça.
Je veux dire, je passe ma vie professionnelle à parler de la défaillance des autres parents dans l'éducation de leurs enfants. Et quand je parle de défaillance, je parle de défaillance grave, hein, parce qu'on parle de protection de l'enfance. Et je me dis, mais j'en ai fait l'objet aussi, tu vois. Donc, je rentre de formation, remontée comme jamais. Je décide de parler à ma mère. Donc, j'appelle ma mère. Je lui dis, voilà, je rentre de formation. Bon, bah, je t'annonce. Je vais porter plainte contre X, parce que je veux plus l'appeler papy, mon grand-père ou quoi.
Bien
Donc, je vais
sûr.
porter plainte contre lui. Et là, ma mère, sa réponse à chaud, c'est de dire, ah non, Manon, non, mais je crois qu'on a assez souffert, non? Et là, je me dis, non,
Ouais.
attends, il y a
Mais
un
là, elle prend
problème, là,
vraiment pas
enfin.
en compte ton besoin à toi, quoi.
Ouais. Et je suis sidérée, quoi. Je me dis, attends, on est où, là, enfin. Et là, je pète un câble, je lui dis, écoute, en gros, avec ou sans ton soutien, moi, j'irai porter plainte. Tu fais ce que tu veux, toi. Si tu as envie de rester victime de tes abus et qu'on n'en parle pas, c'est ton problème. Moi, je vais aller porter plainte. J'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de me reconstruire. Donc, suite à ça, j'appelle mon père, je lui sors le même discours. Mon père, ah oui, d'accord, ok, si tu veux. Lui, un peu sonné par l'annonce, il me
Oui,
dit
puis comme
trop
tu dis,
rien,
lui, il
il
est
me dit, je
gendarme, donc il a
comprends.
peut-être une autre vision du fait de porter plainte, il a peut-être en tête tout ce que ça implique et il voit peut-être les choses différemment de ta mère aussi.
Oui, puis enfin, c'est mon père, quoi. Comme
Oui.
je te dis, il n'est pas très dans l'émotion, quoi. Il me dit, oui, d'accord, bon, si tu en as besoin, si tu veux, ok, bon, bref. sans trop d'empathie non plus hein, dans la réponse, mais plutôt en mode bon bah ok si tu veux quoi, si tu veux le faire, d'accord, bon ok,
Fais ce que
enfin
tu veux.
je comprends. Voilà. Donc un ou deux jours après, ma mère m'appelle et elle me dit bon écoute Manon, je crois qu'il faut qu'on fasse une réunion de famille, c'est important. Voilà, faut qu'on se voit, faut qu'on se parle de tout ça, faut qu'on se voit. Donc, bah déjà, je la remercie de prendre son rôle de parent à cœur et de dire, bon, faut qu'on... Enfin, je la remercie de prendre cette initiative et de dire, voilà, je reste quand même une adulte et ta mère et je vais... voilà, on va discuter de tout ça. Donc, on définit d'un moment pour le faire. Et donc, à l'époque, mon père était... vivait en Outre-mer, donc il n'était pas avec nous physiquement, mais donc ma mère, on fait ce conseil de famille, elle dit on va discuter, puis après on appellera ton père en FaceTime, donc il y a ma sœur, il y a ma mère, il y a... voilà. Et elle me dit, bon, moi je veux que tu me dises ce que tu as vécu exactement. Donc, ouais, d'accord. Elle me dit, je veux vraiment que tu me dises quels ont été les gestes, comment ça s'est passé, quand ça s'est passé. Je veux que tu me dises, parce que tu m'as dit quand tu étais ado que tu avais vécu des choses, mais tu m'as pas dit quoi. Donc là, je veux que tu me dises quoi, vraiment, quoi.
D'accord.
Donc, je me replonge dans mes souvenirs, je lui redis. Et je lui dis, du coup, moi, je veux que tu nous dises maintenant ce que toi, tu as vécu.
Et
Et
oui,
elle
c'est
me dit,
étonnant.
ah non, 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 elle me dit, ah non, 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 il ne s'agit pas de moi. Ah, j'ai dit, si, il
D'accord.
s'agit de toi, en fait. Il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de ma sœur. Je veux que tu me dises ce que tu as vécu. J'ai besoin de le savoir. Dans ma formation autour du génogramme, il est question de l'importance de connaître son histoire familiale. Moi, là, j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de savoir. Et je sens que elle hésite, tu vois. Je lui dis, c'était quoi? C'était des attouchements, c'était du viol, c'était quoi? Tu vois, je pose les mots, je lui dis c'était récurrent, c'était une fois, c'était. Et je sens qu'elle hésite et je lui dis t'étais consentante. Et là, quand je dis consentante, je sens qu'il y a un truc, tu vois, je sens que je touche, tu vois, je vois un truc dans son visage et je sens
Tu
que
sens
je
que tu as
mets le doigt
touché le
sur.
point sensible.
Ouais, je vois les larmes qui commencent à monter et tout. Donc je lui dis mais t'étais consentante? Et là, elle nous dit, j'ai dit, écoute, parle-nous, on ne te jugera pas, enfin, on peut tout entendre en fait avec Alex, avec ma sœur, on peut tout entendre, on a besoin de savoir. Et donc là, ma mère nous apprend elle nous apprend dans la honte, hein, parce qu'elle était très honteuse quand elle nous raconte ça, que en fait, quand elle était jeune, sa mère s'est mise avec cet homme-là, et donc ma mère avait 16 ans. Et elle est
D'accord.
tombée amoureuse de lui. Et elle a une relation amoureuse avec son beau-père. Donc là, on est sur une toute autre histoire, quoi. Je veux dire,
Ah oui,
là,
absolument, ça n'a rien à voir.
voilà, on parle d'une relation d'amour hein, qu'il y a eu entre ces deux personnes. Donc ma mère a 16 ans et cet homme-là, qui était le compagnon de sa mère. Et au fil des années, donc ça a duré 2-3 ans. Ma mère a décidé d'interrompre cette relation, donc c'était une relation adultère hein, quand même.
Oui,
Ça
ça
se
a duré
passait.
longtemps quand même.
Ouais, ça a duré longtemps, puis ça se passait dans le dos de ma grand-mère, même si bon, je reste convaincue que. Bon, c'est
Elle
de la
le savait.
spéculation, mais je pense qu'elle le savait, mais bon.
Ouais.
Et que donc quand elle a rencontré mon père, elle s'est dit, bon, moi je veux arrêter, j'en ai marre, cette relation, elle ne me convient pas. Voilà. Et donc elle lui a dit, bon, stop, on arrête tout. Moi, de toute façon, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais, je quitte le domicile familial. Et donc lui, en réaction à ça, il lui a dit, ah non, mais tu vas pas arrêter, en fait. Tu vas pas arrêter, tu vas pas partir, tu vas continuer d'avoir des relations sexuelles avec moi. Parce que si tu arrêtes, moi je quitte ta mère. Et tu sais très bien que si je quitte ta mère, qu'elle s'en remettra pas et qu'elle va sombrer dans l'alcool, donc tu vas continuer.
Et c'est là que les abus commencent.
Et voilà, c'est là où on passe d'une relation non consentie d'une relation consentie à une relation non consentie. Hein. Donc c'est là
Absolument.
qu'elle définit ses rapports comme des rapports contraints. Et en fait, là, quand elle me dit ça, je réalise à ce moment-là que en fait ma mère, elle a une histoire amoureuse avec cet homme-là et pas une histoire incestueuse.
Oui.
malgré qu'elle le soit dans les faits. Hein. On est d'accord que c'est
Absolument.
un... Voilà.
Mais c'est très compliqué.
C'est un
Là, on
homme.
Touche quelque chose de... Ça entremêle beaucoup de choses.
C'est ça. Ça reste quelqu'un qui a autorité sur un mineur donc, et
Totalement.
Un membre de la famille. Donc, on parle bien d'une histoire incestueuse. Mais ce n'est pas ce que j'ai vécu, moi, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est très difficile de parler parce que j'ai pas envie de blesser qui que ce soit dans mon discours. Hein, mais
Non, mais là, tu parles simplement de ta vision des choses et de ce que tu as vécu toi. Il n'est pas question de juger qui que ce soit. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour mettre un jugement sur ce que ta mère a vécu ou sur ce que peu importe qui a vécu. Le but, c'est simplement que tu nous expliques, toi, comment tu vois les choses et que tu nous racontes ton histoire. Tu es là pour ça.
Ouais. Du coup, voilà, on n'était pas. Enfin, pour moi, là, finalement, j'ai réalisé qu'en fait, ma mère, elle voyait pas cet homme comme un pédophile ayant abusé d'elle étant enfant. Parce
Oui.
que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé à l'époque, mais plutôt comme un
Ouais.
homme qui avait la place qu'il avait dans sa vie, hein, c'est-à-dire. Son beau-père, mais avec qui elle a eu une histoire d'amour, qui a été un homme qui a été blessé d'être éconduit, mais pas un pédophile qui a profité d'elle étant enfant, quoi. Et du coup, dans ce contexte-là, elle me dit, mais jamais, jamais, tu m'entends, j'aurais pu m'imaginer que tu aurais subi les assauts de cet homme-là. Et
Et oui, parce
crois-moi, elle
qu'elle,
me
elle
dit,
le
mais
voyait pas
crois-moi.
comme un prédateur.
Mais voilà, elle me dit, mais jamais je t'aurais laissé partir en vacances là-bas. Si moi j'avais vécu des choses étant petite fille avec lui, jamais je t'aurais laissé partir là-bas, quoi. Et là, je me prends la vérité en pleine face. Là, je prends conscience que ça fait plus de 10 ans, donc depuis mon réveil du blackout, que en fait je me construis sur un mensonge presque, parce que
Ouais.
c'est une interprétation complètement biaisée de ce que ma mère a pu me dire à mi-mot. Mon cerveau en a. Bah, en même temps, enfin voilà, elle me dit j'ai subi des choses de sa part, mais sans trop me dire quoi. Donc, bah,
Oui, bien
forcément, j'ai
sûr,
pu.
tu fais des conclusions par rapport à toi, à ce que tu as vécu, c'est normal.
C'est ça. J'ai pu que m'imaginer que ça avait été dans le même contexte que moi. Alors, pas du tout, c'était complètement autre chose. Et mon père, du coup, je lui dis, mais tu savais tout ça? Et il me dit, mais jamais. Il me dit, mais jamais j'ai été au courant que ta mère a eu cette histoire avec lui, quoi.
Elle lui en a jamais parlé. Elle a vraiment gardé ça pour elle, en fait.
Ben oui, la pauvre, franchement la pauvre quand j'y pense, parce
Ouais.
que je me dis qu'elle doit encore beaucoup en souffrir de cette histoire. Et du coup, je me dis que là, je réalise que depuis l'âge de 16 ans, je me construis, ou je me reconstruis, je sais pas, sur une vision biaisée de la réalité, celle que mes parents n'ont pas fait leur devoir de protection. En m'envoyant chez un pédophile notoire en vacances. Mais en fait, que non, la vérité était beaucoup plus complexe que ça, quoi. Et à la fin de ce conseil de famille, mes parents ont de concert affirmé qu'ils m'accompagneraient dans ma démarche de plainte et que j'avais tout leur soutien.
Et là, t'es reconnue comme une victime.
Voilà. Et à ces mots, j'ai plus besoin d'aller porter plainte.
Ça t'a
Je ressens
totalement
plus le besoin.
soulagée.
Mais oui. Parce que
D'accord.
qui de plus important dans ta vie, enfin, que tes parents, quand ils te disent mais tu es victime, enfin, il y a pas de. Quand c'est eux, tu vois, enfin, pour moi, c'est l'autorité, c'est pas la loi l'autorité suprême, c'est mes parents. Et quand mes parents me disent mais oui, tu es une victime et on te soutient et tu auras tout notre soutien, ben là, ok, ben, c'est tout ce que je voulais en fait. Ouais, c'est
C'est
tout ce que
fou
je
quand
voulais.
même hein, quand on y pense parce que ça t'a demandé des années et des années pour simplement avoir la réalité de ce qui s'était passé, la véritable histoire de ta mère. Et c'est en sachant ça, avec le fait qu'elle en parle aussi devant ton père, que finalement tu as pu avoir le soutien dont tu avais besoin depuis toujours en fait. Et c'est ça, si je comprends bien, qui t'a permis d'avancer et pas de te détacher, mais en tout cas de mieux vivre avec ce traumatisme.
Ben oui, ouais, de mieux vivre avec moi-même en tant que personne
Ouais,
déjà.
ouais, ouais.
Parce que c'est aussi me dire, dire à quelqu'un tu es victime, c'est aussi lui dire c'est pas de ta faute, quoi, déjà.
Oui, absolument.
Et puis, c'est de remettre les choses à sa place, quoi. C'est-à-dire qu'un parent qui dit j'ai le devoir de te protéger et je te protège, c'est aussi remettre à sa place de parent le parent et d'enfant l'enfant, tu vois. Et moi, quand j'étais ado, j'ai toujours vu ma mère comme quelqu'un de fragile que je devais protéger, mais parce qu'à 16 ans, elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait été victime. Donc, tu vois, ça a changé les places un peu dans ma tête, tu vois,
Oui, totalement.
de qui protège l'autre, tu vois. Et ça a vachement apaisé, du coup, suite à ça a vachement apaisé nos relations familiales. Parce que tout le monde a retrouvé plus ou moins une place, quoi. Mes parents à leur place de parents, ma mère à sa place de mère, moi à ma place d'enfant, et même si j'étais adulte, et même si je suis adulte, c'est important quand même que chacun ait sa place, quoi.
Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver un équilibre de famille. C'est plus apaisé aujourd'hui?
Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus, et même si, bon, ça reste un peu conflictuel avec ma mère, mais c'est plus que je l'adore. Mais voilà, comme je t'ai dit, enfin, moi, je suis quelqu'un de féministe, et ma mère, c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans les vieilles mœurs, un peu, voilà, où la place de la femme, c'est de séduire l'homme,
Oui.
Où sa peur, panique, c'est de prendre du poids, alors que je suis anti-grossophobie. Enfin, donc forcément, des fois, on se rencontre pas sur ces visions-là, et parfois, je vais être un peu, je pense que je peux être un petit peu virulente dans mes propos, etc. Mais on s'aime beaucoup, et on a une relation unique. Voilà. Mais du coup,
Ça fait
cette
plaisir
histoire.
d'entendre ça, vraiment.
Mais
Je
oui,
pense
mais
que
cette.
ça peut donner espoir à des personnes qui sont en train de vivre la même chose et qui pensent que ça va jamais s'arranger et que c'est un tunnel dont on ne sort pas. C'est rassurant et je pense que ça peut donner de l'espoir à beaucoup de monde de savoir que on peut vivre ça et aujourd'hui être apaisé malgré tout.
Mais oui, et je pense que la phase finale de la reconstruction, c'est de pouvoir en parler librement, tu vois. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout de tabou sur cette histoire-là. Et c'est aussi le message que je voulais porter à ton micro, c'était de dire que il faut lever les tabous autour de l'inceste et autour des histoires familiales. Enfin, pour moi, j'ai vraiment pris conscience, tu vois, autant dans le génogramme, quand j'ai fait ma formation, on te dit, ouais, c'est très important de connaître son histoire, mais alors là, là, je l'ai vraiment réalisé, quoi,
Ouais.
que, enfin, c'est d'une importance ultime de connaître son histoire, parce que quand on grandit sur un tissu de mensonges, parfois, quand on connaît les tenants et les aboutissants de comment s'est passée notre enfance, etc., mais enfin, ça change complètement, ça ouvre un panorama enfin, incroyable. Alors, je dis pas que. Je suis pas en train de dire qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Mais je dis juste que en savoir un peu plus sur ses parents, sur ses grands-parents, sur ce que nos parents ont vécu, ça permet de comprendre beaucoup de choses et d'avoir une vision un peu plus précise de la réalité, quoi.
Totalement, tu as totalement raison. Parce que c'est comme tu dis, ça nous permet d'avoir aussi d'autres outils pour mieux comprendre comment les gens réagissent aujourd'hui, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs propres traumatismes, leur propre histoire. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Merci déjà pour ton témoignage. On va avancer un petit peu, on arrive sur les questions de fin d'interview, mais je tenais vraiment à te féliciter d'avoir ouvert le débat sur ce sujet. Je pense que ça fera beaucoup réagir et que bah, ça aidera aussi certainement certaines personnes qui connaissent des gens qui l'ont vécu, qui le vivent ou peu importe. Le plus important, c'est que là, ton histoire, elle est posée et elle va certainement aider du monde. Donc, merci pour ça.
Ouais, puis ce que je voulais dire, c'est que faut pas avoir honte de. Faut pas vivre dans la honte de ce qu'on a subi, quoi. C'est-à-dire que on y est pour rien. On est victime et la personne qui devrait avoir honte, c'est la personne qui a eu ses comportements déplacés, quoi. Donc
Absolument.
voilà, c'est important de ne pas se sentir honteux, mais c'est un travail, voilà, c'est un travail. Faut avancer et il faut pas se culpabiliser non plus, quoi, de ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de ça.
Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce propos, je mettrai en description un maximum d'informations, de liens, de tout ce que je peux trouver sur le sujet, même de liens vers des psys ou des personnes spécialisées, voire même des ouvrages sur le sujet, pour permettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir des ressources complémentaires. Donc, comme je te le disais, on va arriver sur les questions de fin d'interview, dont une que j'aime beaucoup poser parce que je trouve que ça permet aussi de voir les choses un petit peu sur le long terme, si tu avais la possibilité de t'écrire une lettre à ton futur toi, donc dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire?
Je voudrais me dire, bah, tu vois, Manon, tu avais raison. La trentaine, c'est carrément plus cool que la vingtaine. Et que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, tu te connais, tu es bien dans ta peau et ça va de mieux en mieux et ça ira de mieux en mieux avec le temps. Donc, fais-toi confiance et c'est cool, quoi.
Quels sont tes objectifs pour l'avenir?
Bah, je dirais que oui, mon objectif, c'est de continuer de m'épanouir dans mon foyer, avec mon amoureux, avec mon chat, continuer de m'améliorer en tant que personne, continuer à progresser dans la photo, dans la peinture, dans le dessin, et puis réussir à faire un bébé. Parce que j'essaie
je te le souhaite.
Un petit moment, ça ne marche pas trop. Donc voilà, j'espère que 2022 nous apportera cet événement-là.
Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui?
Ouais, je suis très heureuse clairement dans ma vie. J'ai une vie, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une vie qui m'apporte très peu de contraintes. Et franchement, c'est super quoi. Je m'entoure que de personnes qui me font du bien. J'ai de la chance d'exercer mes passions quotidiennement. Je suis heureuse en couple, j'ai la santé. Je me dis, mais quoi de plus quoi?
Et puis pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont écoutés, aujourd'hui?
Ouais, le conseil c'est de garder en tête que vous êtes libre et que vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer la totalité de votre vie. Alors écoutez vos besoins avant de toujours dire oui aux autres et du coup osez dire non. J'ai passé trop de temps à me forcer à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai des relations qu'avec des gens qui me font du bien. J'ai dit stop à mes relations qui ne me faisaient pas de bien et que ce soit sur des choses très légères telles que les loisirs. Maintenant, s'il y a un truc qui m'ennuie, je dis non, quoi. J'ai pas envie d'aller une soirée, j'y vais pas. Je me force plus. Et du coup, ouais, ça fait du bien, quoi. Donc, vraiment, enfin, autorisez-vous à dire non et réfléchissez pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous les faites pour vous? Est-ce que... Voilà, c'est important. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire j'ai pas envie. Et voilà. Autorisez-vous un peu.
Merci, Manon.
Merci à toi, Mathilde.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je m'appelle Mathilde, je suis créatrice de l'émission Bouteille à la mer. J'ai produit et réalisé l'épisode que vous venez d'écouter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir laisser une note sur les différentes applications d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça me motive à continuer et ça fait grandir l'émission. Sachez qu'ici, la parole est libre et qu'aucun sujet n'est tabou. Si vous avez des choses à partager, un témoignage à apporter ou simplement envie de faire entendre vos voix sur un sujet en particulier, je vous invite à m'envoyer un mail avec votre présentation et une rapide description de votre histoire.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
à l'adresse bouteille à la mer sans accent tiré du 6 podcast@outlook.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Bouteille à la mer.